Voilà, dans notre Église, nous arrivons à la fin de l'étude de cette lettre, cette épître aux Hébreux, que nous avons étudiée depuis quelques semaines, et on va terminer ce matin pour ensuite aller vers des thèmes de Noël. Mais nous arrivons à la fin de cette lettre, et dans cette lettre, l'auteur veut encourager les chrétiens à persévérer dans leur foi, à constater que Jésus est meilleur que tout le reste. Il est un meilleur sauveur, il offre un meilleur salut. Et en plus, ce que nous allons voir ce matin, c'est qu'il nous fait vivre en lui une meilleure communauté. Alors je vous invite à lire avec moi Hébreux chapitre 12, versets 18 jusqu'à la fin du livre. Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse lui-même dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vont annoncer la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dans ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qui fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, dans ce livre, l'auteur cherche à montrer que Jésus est meilleur que tous les que tous les aspects du culte hébreu, le culte de Moïse. Il est un meilleur sauveur. Donc, dans ce livre, le mot meilleur, supérieur, plus excellent arrive constamment. Et parmi les avantages de suivre Jésus-Christ, non seulement il est un meilleur sauveur pour nous, mais mon propos ce matin, c'est qu'il nous offre à vivre une meilleure communauté, une meilleure assemblée, une meilleure communauté. Elle est meilleure parce qu'elle célèbre un meilleur culte. Ensuite, on va voir qu'elle fonctionne avec de meilleures relations. Elle est dirigée par un meilleur pasteur et elle va vers une meilleure destinée. Donc, vous voyez, tout est meilleur et donc on termine en beauté avec le mot « meilleur » ce matin. La foi chrétienne nous fait vivre une meilleure communauté et elle est meilleure parce que, pour ces raisons. Alors, un mot avant de commencer le premier point, c'est que lorsque je parle d'une meilleure communauté ce matin ou une meilleure assemblée, je ne parle pas directement de l'EBTM. Notre assemblée n'est pas meilleure qu'une autre. L'assemblée, la communauté dont je parle, c'est le peuple de Dieu, l'Église universelle de Jésus-Christ, captée dans cette idée d'une cité céleste, une cité éternelle. Bien sûr, à l'EBTM, nous cherchons, nous essayons de vivre cette réalité sur une petite échelle, imparfaitement, et nous voulons vivre un meilleur culte, des meilleures relations, nous avons un meilleur pasteur, et nous allons vers une meilleure destinée. Mais notre Église peut encore progresser, nous ne sommes pas meilleurs qu'une autre. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est nous les meilleurs, mais que c'est Jésus le meilleur. Et quand on appartient à Jésus, on appartient à son peuple, et ça, c'est une meilleure communauté. L'appartenance à Christ et à son Église offre quelque chose de meilleur que toute autre communauté, communauté ethnique, communauté religieuse, communauté professionnelle. Nous allons voir que nous avons en Christ une meilleure communauté. Tout d'abord parce qu'elle célèbre un meilleur culte. Comparant les différents cultes qui existent, et j'aimerais vous convaincre que le culte chrétien, qui ne se limite pas à juste 2 heures dimanche matin, mais le culte chrétien est vraiment meilleur. Tout d'abord, elle est meilleure pour plusieurs raisons. Il est meilleur parce que le culte chrétien est rassurant et joyeux et pas terrifiant et culpabilisant. Et on commence avec ça dans les versets 18 à 24. En fait, l'auteur compare, il parle à des Hébreux, donc ils connaissent bien cette histoire de l'Ancien Testament, l'histoire de Moïse, l'histoire de Mont Sinaï. Donc, à ces Hébreux, il compare deux montagnes où on trouve deux cultes. Deux montagnes et deux cultes. Une montagne, c'est le Mont Sinaï, avec le culte au Mont Sinaï. Et puis, il y a le Mont Sion et le culte au Mont Sion. Alors, le mont Sinaï, c'est là où le culte mosaïque, le culte hébraïque, a été inauguré avec ce spectacle terrifiant. Il rappelle que là, à ce moment, la présence de Dieu y était redoutable, l'accès était interdit, la parole de Dieu était tonnerre. Même Moïse a dit « Je suis épouvanté, je suis terrifié, c'est trop ». Mais il dit à ces chrétiens, hébreux, et c'est pour nous aussi, vous ne vous êtes pas approchés, vous n'êtes pas venus à cette montagne-là. Maintenant, en Christ, vous êtes approchés, verset 22, d'une autre montagne, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Et cette fois-ci, l'ambiance n'est pas terrifiante, elle n'est pas redoutable, mais l'ambiance, c'est la joie et la reconnaissance. Selon certaines traductions, verset 22, quand ça parle des myriades qui forment le cœur des anges, certaines traduisent « Vous êtes venus à une assemblée en fête. Vous êtes venus à une réunion de fête. » Avec au centre de ce culte, verset 24, Jésus, avec cette phrase particulière, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En fait, cela fait référence à l'histoire de Caïn et Abel, et Caïn, tout au début de la Bible, avait tué son frère, Abel. Et Dieu lui dit en Genèse 4, 10, « Ah, tu as tué ton frère, la voix du sang de ton frère crie vers moi. » Donc effectivement, ce sang versé avait comme une voix et qui criait. Elle criait, mais elle criait, elle demandait justice, elle demandait vengeance, elle demandait rétribution. Là. Le sang des innocents, quelque part, crie pour justice et rétribution. Donc voilà ce que disait un peu la voix du sang d'Abel. Et il dit, mais le sang de Christ, ce que nous avons célébré encore ce matin, à la Sainte Seine, à travers les champs, avec le rappel de la croix, le sang de Christ parle mieux, il dit, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et la voix du sang de Christ, qui a été versée pour nous à la croix, cette voix, elle parle, elle crie de manière symbolique, hein, mais elle, au lieu de parler, de crier pour la justice, la rétribution, la vengeance, elle parle, elle crie, elle demande pardon, elle demande l'amour, elle parle en notre faveur. Et donc entre ces deux rencontres, la rencontre au Mont Sinaï avec cette ambiance terrifiante et ce nouveau culte chrétien autour de Christ et de ce qu'il a fait pour nous et son sang, et cette réunion maintenant entre le ciel et la terre, qui est une assemblée en fait, eh bien, je vous dis que ça crée vraiment des ambiances cultuelles différentes. Et le culte chrétien est meilleur en cela. Tous les autres cultes cherchent à apaiser le divin, ayant peur de sa justice, de sa vengeance, de sa rétribution. Et donc on fait des choses pour le calmer, mais toujours être un peu terrifié, ou en sentant coupable. Mais le culte chrétien remercie Dieu pour un salut déjà acquis. Et c'est pour ça que la reconnaissance et la joie sont au cœur du culte chrétien. Et n'est-ce pas mieux, n'est-ce pas meilleur, n'est-ce pas mieux de vivre dans la joie, dans la reconnaissance, dans l'assurance, que dans la peur et la culpabilité? Ben, c'est ce qu'on peut vivre lorsque nous nous approchons de cette la présence de Dieu maintenant, par Christ. Alors c'est vrai que Dieu est toujours un feu dévorant, ça n'a pas changé, et il le rappelle en versets 28 et 29, offrant un culte avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc notre culte doit être fait avec piété, avec révérence. Mais le miracle du culte chrétien, c'est qu'il y a aussi la fête devant ce feu dévorant. Il y a le feu et la fête. Parce que toute cette assemblée autour de Dieu, ils sont dans la joie, ils sont dans la reconnaissance. Et ce Dieu qui n'a pas changé, c'est vrai qu'il est feu, mais il y a la fête. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça le culte chrétien. Il y a sainteté solennelle, mais aussi joie débordante. Comment réunir ces deux choses-là? C'est par Jésus. Allez voir les différents cultes. Souvent, c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais équilibrer les deux, mettre les deux ensemble, c'est pas facile. Vous allez dans une boîte de nuit, encore une stade, c'est un peu les lieux de culte de nos jours. Il peut y avoir la fête dans la boîte de nuit, mais il n'y a pas forcément la sainteté. Ou vous allez dans d'autres cultes très austères, les grands bâtisses, là, voilà, vous sentez toute la sainteté, le feu de voix, mais des fois, on se demande, mais où est la joie? Où est la reconnaissance? Où est la liberté? Où est l'assurance? Où est cette assemblée, en fait, où on célèbre Dieu pour tout ce qu'il a fait? Là, et ça, ça manque. Et c'est pour ça que le culte chrétien est particulièrement meilleur. Il est rassurant et joyeux, et pas terrifiant, culpabilisant. Et une autre raison que c'est meilleur, c'est que le culte chrétien est spirituel et pas superficiel. Quand il dit « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste », en fait, là, il parle des réalités spirituelles. C'est-à-dire, le mont Sinaï, c'est un lieu géographique, on peut s'y rendre avec des coordonnées GPS. Mais le mont Sion n'a pas, pour l'instant, des coordonnées GPS. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous rendre à telle montagne ou tel lieu pour rendre un culte. Le mont Sion, elle est ici, c'est une image, elle est quelque chose d'abstrait, elle est spirituelle. Le mont Sina représente, le mont Sion représente la présence de Dieu. Et depuis la mort et la résurrection de Jésus, le mont Sinaï, Sion représente la réunion spirituelle, la réunion entre des choses célestes et des choses terrestres, et les croyants sur la terre. Et ça, c'est ce que nous vivons. Déjà, vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est une réalité dès aujourd'hui, ce matin, sans devoir nous déplacer tel endroit du monde. Et ça aussi, ça impacte tout le culte chrétien. Regardez bien le culte chrétien, il n'y a pas d'heure fixe, il n'y a pas de prière fixe, il n'y a pas de lieu fixe, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de lieu sacré, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'objet sacré. Plus tard, il va dire en verset 10, nous avons un autel dans ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Et là, il parle d'un autel spirituel. Il rappelle la personne de Jésus et la croix, mais on n'a pas besoin d'un autel fixe. Alors, certaines personnes pourraient dire, mais moi, j'ai besoin pour ma foi, j'ai besoin des statues, j'ai besoin des icônes, j'ai besoin de lieux de pèlerinage, j'ai besoin de rites, j'ai besoin de prières, j'ai besoin de gestes corporels, j'ai besoin d'une alimentation particulière, c'est ça mon culte. Mais la Bible rappelle sans cesse que ces choses-là deviennent facilement superficielles, idolâtres, inefficaces pour transformer le cœur. Inefficace pour affermir le cœur. Comme il dit en verset 9, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y ont attachés. Donc ce n'est pas de manger ou de ne pas manger qui va vraiment transformer, remplir nos cœurs de grâce. Et c'est pour ça que le culte chrétien n'est pas basé sur une alimentation ou une liste de choses à faire ou des prières fixes ou des lieux fixes. Et ça, je trouve, c'est mieux, ça nous aide à aller au cœur des choses. Au lieu de rester superficiel, c'est des vérités spirituelles vraiment qui nous transforment. Et puis le culte chrétien, c'est un meilleur culte parce qu'il est constant, pas juste ponctuel. En verset 28, il dit, donc, à cause de tout cela, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et crainte. Et vous êtes bien d'accord avec moi que cette chose-là dont il parle ne se limite pas à 2 heures dimanche matin. D'ailleurs, beaucoup de commentaires pensent que c'est la suite en chapitre 13 qui décrit le culte chrétien, la vie chrétienne. Et quand il dit, par exemple, plus tard, en verset 15, 13-15, par lui offrant sans cesse, pas un jour par semaine, mais sans cesse. À Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc là, il est en train de dire que la bienfaisance, la générosité, la libéralité, confesser son nom là où on est, ça fait partie des sacrifices. C'est pas des sacrifices tangibles, c'est des sacrifices spirituels que les chrétiens offrent, et cela est possible en tout temps, sans cesse. Donc, oui, ce que nous faisons ce matin, c'est culte ensemble, mais n'oublie pas, c'est culte lundi matin, quand vous partez au travail avec reconnaissance pour le boulot que Dieu vous a donné. C'est culte quand vous confessez le nom de Christ à un collègue. C'est culte quand vous aidez moins de bas, plus de cœur à distribuer des cadeaux aux enfants des réfugiés. Et c'est culte quand vous servez cet après-midi le repas aux démunis avec main tendue. C'est culte quand vous aimez fidèlement votre conjoint en s'appuyant sur Jésus-Christ. Tout ça, ce sont notre culte à Dieu. Et la Bible, le Nouveau Testament confirme ça. Le culte chrétien, c'est une vie entière offerte à Dieu et pas juste un instant dans la semaine. Et moi, je trouve ça, c'est une meilleure conception du culte. Parce que si on limite le culte à juste un jour ou un moment, c'est facile, on fait son culte et puis le reste de la semaine, on vit pour soi-même. Mais là, mais Dieu, évidemment, si Dieu est Dieu, il veut plus que ça. Il veut tous nos cœurs, il veut toute notre vie. Et je trouve que c'est mieux. Donc maintenant, je vais parler justement de ces meilleures relations qui composent en quelque sorte le culte chrétien ou la la vie chrétienne, ou que nous pouvons vivre et qui donne une meilleure communauté. Donc, la meilleure communauté parce qu'elle célèbre un meilleur culte, une meilleure communauté parce qu'elle vit de meilleures relations. À partir de verset 13, il y a toute une liste des choses qu'ils s'attendent à les chrétiens à faire. Je pense que ça fait partie aussi de notre culte. Tout d'abord, verset 1, il dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Et comme nos animateurs de culte rappellent souvent, le culte ne termine pas avec le dernier chant. Le culte continue lorsque vous vous saluez et vous prenez le café ensemble. Il y a l'amour fraternel. Ensuite, verset 2, il y a l'amour des étrangers. Donc d'abord, il dit persévérer dans l'amour des frères. Ensuite, il dit pratiquer l'hospitalité, mais littéralement l'amour des étrangers. Verset 3, il dit « souvenez-vous des prisonniers ». Et je pense que ceux qui souffrent dans leur corps, donc quelque part, on se souvient de tout ce qui sont empêchés à cause d'une opposition, à cause d'une maltraitance, à cause d'une maladie, à ne pas vivre, à ne pas être avec nous. On pense à eux, on s'associe à eux, on se rappelle qu'ils ont un corps comme nous. Donc s'ils souffrent, nous souffrons avec eux. Donc l'amour fraternel, l'amour des étrangers, le souci, le soin des prisonniers, de ceux qui souffrent dans leur corps. Verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Donc pas d'adultère, pas de débauche, pas d'abus. Et verset 5, il y a un nouveau rapport à l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et maintenant, dans la communauté chrétienne, c'est plus l'amour de l'argent qui prime, mais il y a un contentement, il y a une confiance en Dieu, comme nous avons chanté tout au long de ce culte ce matin. Puisque Dieu est notre secours, puisqu'il est notre aide, on peut ne pas s'inquiéter même des problèmes matériels. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, le Seigneur est mon aide. » Donc ça, c'est juste cinq aspects de cette communauté chrétienne que nous vivons. Voilà comment fonctionne, voilà comment devrait fonctionner les relations dans la communauté de Christ. L'amour fraternel, persévère en tout temps. L'amour de l'autre, l'amour de l'étranger, l'amour du nouveau est pratiqué. Ceux qui souffrent ne sont pas oubliés, mais ils ont une place, une part importante dans notre communauté, même quand on ne les voit pas, même quand ils sont... Mais ils ne sont pas exclus, nous essayons de les aimer, de prier pour eux, de se rappeler. L'amour romantique est cadré. Donc le mariage est honoré, du coup, l'amour romantique est cadré. Et puis l'amour de l'argent est dompté et remplacé par un amour pour Dieu. Mais imaginez une communauté qui vit cela. L'amour fraternel, l'amour de l'étranger, le soin, le souci des faibles et des souffrants, l'amour romantique cadré et l'amour de l'argent dompté. Ce serait merveilleux. Ce serait meilleur que la plupart des communautés que vous avez vécues, que nous vivons. Et je trouve ce portrait de la communauté de Christ, on voit, ce n'est ni le communautarisme, ni l'individualisme qui prime. Le communautarisme, ils peuvent être très fraternels, mais les étrangers peuvent être exclus. L'individualisme, chacun cherche son propre intérêt. Donc parfois, le mariage n'est pas honoré de tous. Il y a des mauvais rapports entre des personnes. De l'orgueil, de l'égoïsme. Où on oublie l'amour fraternel quand on vit juste pour soi. Donc vous voyez, on a un portrait d'une communauté où c'est ni le communautarisme qui prône, qui domine, ni l'individualisme. Et regardez autour de vous, dans toutes les autres communautés que nous sommes appelés à vivre, donc ethniques, nationales, professionnelles, même en ligne maintenant, beaucoup de communautés se vivent en ligne, il est difficile de trouver l'équilibre entre tous ces amours. Il n'y aura pas forcément l'amour de l'autre qui est un peu différent que moi, ou il n'y aura pas forcément le mariage honoré par tous. Dans un contexte professionnel, c'est bien, mais souvent, c'est quand même l'amour de l'argent qui dicte les affaires. C'est en crise que nous vivons vraiment de meilleures relations. Et ça, je trouve merveilleux. Et c'est encore une raison de suivre Jésus et de choisir lui comme meilleur sauveur. Elle est, ce que nous vivons en Christ, c'est une meilleure communauté aussi parce qu'elle est dirigée par un meilleur pasteur. Ici, plusieurs versets vont évoquer les conducteurs de cette communauté. Et c'est toujours un défi de réussir l'autorité et la conduite dans quelle que soit la communauté. Il suffit de regarder les politiques autour de nous, ou les différents pays, ou les différentes choses que vous devez gérer au travail. Qui sont les conducteurs, qui sont les chefs, qui sont les patrons, et comment ça se passe. Souvent, ce n'est pas facile. Le communautarisme peut demander une soumission aveugle aux responsables, néfaste. L'individualisme peut rejeter toute autorité pour aussi être néfaste. Mais ici, nous avons un cadre dans cette communauté qui trace une nouvelle voie et je vais vous la montrer. Alors, dans ces conducteurs de la communauté, l'auteur évoque plusieurs fois des responsables, des conducteurs, et c'est vraiment, je pense que c'est un privilège d'avoir de bons responsables, de bons conducteurs dans la vie. Les premiers conducteurs qu'il mentionne en verset 7, ce sont des conducteurs des générations précédentes. Verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. » Donc, c'est des personnes qui nous ont précédés, des personnes qui ont déjà terminé leur course, qui ont rejoint l'Assemblée céleste. Et il dit « Considérez quelle a été leur fin, imitez leur foi. » Donc ça, c'est un groupe de conducteurs, c'est ceux des générations précédentes. Ensuite, en verset 17, il mentionne ceux qui sont en place actuellement. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Cela, il salue en verset 24, que je n'ai pas lu. « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. » Et puis enfin, il rappelle l'ultime berger, l'ultime pasteur, l'ultime conducteur, Jésus en verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc le grand berger des brebis, le grand pasteur, c'est Jésus. Et une communauté qui garde en vue ces trois types de conducteurs se portera bien. Tout d'abord, un regard vers les générations précédentes, les conducteurs fidèles du passé, est vraiment salutaire pour une église, pour les chrétiens. Ce verset 7 et le verset 8 nous encouragent à étudier l'histoire de l'église. Ça tombe bien, il y a une formation ici, je crois. Mais c'est vrai, ça m'a fait du bien moi-même. Il est très bénéfique de regarder à travers l'histoire les exemples de personnes qui ont conduit fidèlement l'église de Jésus-Christ, qui ont défendu la bonne doctrine, qui ont vécu pour Jésus-Christ. Et là, en étudiant ces conducteurs, on constate effectivement que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même fidélité qu'on trouve, c'est parfois les mêmes combats, c'est le même amour, sa parole, c'est sa parole qui a toujours gardé et préservé l'Église. Donc oui, en regardant comment ces conducteurs du passé ont vécu, on découvre que Jésus est le même. Un regard sur l'histoire de l'Église nous aide à ne pas s'embarquer dans des doctrines bizarres. Il dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Si je suis la première personne à découvrir une nouvelle doctrine, probablement elle est bizarre, elle est étrangère. Et c'est l'histoire de l'Église, les conducteurs du passé qui m'aident des fois. Donc je peux lire des commentaires même, je consulte des commentaires par ceux qui ont été écrits par d'autres qui nous ont précédés, ça aide. Un regard sur l'histoire de l'Église et ses conducteurs du passé nous aide en tant qu'ACB à choisir nos propres responsables en voyant « Ah, c'est des gens qui imitent leur foi, c'est bien, on veut de tels conducteurs » et ça motive les conducteurs en place. Donc déjà, garder un œil sur les conducteurs du passé, ça aide. Ensuite, il parle des conducteurs en place. Verset 17, « Obéissez à vos conducteurs. Qu'ils le soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Pour ma part, je peux témoigner que c'est une grande joie d'être responsable dans cette église. Vous avez des anciens dévoués et fidèles, je peux en témoigner. Et ce verset 17 fonctionne bien si les conducteurs humains, si les pasteurs humains, si eux-mêmes suivent le grand pasteur en verset 20. Et c'est pour ça que je dis, en fait, c'est ça l'avantage de la communauté de Jésus-Christ, c'est qu'elle est dirigée, enfin, par vraiment le meilleur pasteur, Jésus-Christ lui-même. Et il est bien de se rappeler que nous tous, nous sommes des brebis de ce berger-là. Pasteur et membre de l'Église, nous sommes tous des brebis de ce berger-là. Récemment, j'étais à une formation à Paris pour les prédicateurs. Et il a rappelé un peu cette vérité. Il lui-même a dit, on ne le voit pas, mais cette vérité revient dans le psaume 23. Vous connaissez peut-être le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Mais il nous a rappelé, c'est David, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, c'est David qui a écrit ce psaume quand il est le roi. Et David lui-même était le roi, le berger d'Israël. Hein. Il a fait grandir en tant que berger. Il était le berger aussi pour son peuple, cette nation. Il était le roi, mais de pouvoir dire de David qui dit sa part, l'Éternel est mon berger, c'est très parlant, c'est une manière de dire... Oui, je suis le berger, mais l'Éternel est mon berger. Je suis le roi, mais l'Éternel est mon roi. Donc, quelque part, ça nous rappelle, chaque roi devrait dire l'Éternel est mon roi. Chaque président devrait pouvoir dire l'Éternel est mon président. Chaque pasteur doit se rappeler, l'Éternel est mon pasteur. Chaque père se rappelle, l'Éternel est mon père. Et ça protège des abus d'autorité. Si tout le monde adopte cette attitude, si tout le monde suit Jésus, le meilleur pasteur, il n'y a pas d'abus d'autorité et ça se passe bien. Bien sûr, une communauté qui s'écarte de ses principes, ça peut même devenir la pire des communautés parce qu'il y a des abus d'autorité et nous voulons être vigilants et éviter ces abus-là en regardant constamment à Jésus-Christ, chacun de nous, membres et pasteurs. Et enfin, c'est une meilleure communauté parce qu'elle va vers une meilleure destinée. Vous savez, pour ces Hébreux, de rejoindre la communauté des chrétiens, de se convertir à Jésus-Christ, c'était se faire rejeter par leur ancienne communauté. Et c'est vrai que dans les cultures où le communautarisme est fort, des fois nous-mêmes, on imagine difficilement ce que ça représente pour quelqu'un de se convertir à Jésus-Christ. Là où l'individualisme règne, bon, on se fait un peu moquer ou chambrer par les collègues, mais on ne perd pas forcément son travail. Parfois, peut-être, mais on ne perd pas. On a toujours accès au système de justice et de droit et la police, tout ça. Mais d'autres, en se convertissant à Jésus-Christ, la communauté entière les enferme dehors et ils n'ont plus rien. Et ils doivent porter un opprobre lourd, un rejet terrible. Et pour ces Hébreux, c'était un peu ça. Ils ont une identité avant Hébreux, Juifs, et maintenant ils veulent suivre Jésus-Christ. Et ils découvrent qu'il y a un opprobre, une difficulté, une fatigue, un rejet. Alors il leur rappelle, à partir du verset 13, « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc pour ces chrétiens qui sont rejetés de leur communauté, il leur rappelle que Jésus lui-même a été rejeté de sa communauté, de sa cité, de sa ville même, de Jérusalem. Il a été crucifié en dehors de la ville, dans l'opprobre, mais ensuite il a été ramené d'entre les morts, il est ressuscité. Et il a rejoint la Jérusalem céleste, l'assemblée en fait, la cité permanente. Et c'est ce qui nous encourage encore aujourd'hui. Si on subit des rejets des communautés de ce monde, que ce soit notre famille, communauté professionnelle, communauté ethnique, eh bien, on se rappelle que nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle à venir et la communauté de chrétiens qui est déjà en quelque sorte admis ou accueilli à la Jérusalem céleste, un jour elle sera vraiment éternellement, de manière permanente, nous attendant la cité à venir. C'est ce qu'il avait aussi laissé entendre à la fin du chapitre 12, et je termine avec cela. À la fin du chapitre 12, l'auteur avait dit que tous les royaumes ici-bas vont être ébranlés. les royaumes, les cités, les communautés ici-bas un jour vont être ébranlés par le jugement, par la parole de Dieu, par l'échéance finale. Et il pose un peu la question, qu'est-ce qui reste? Une fois que le ciel et la terre sont ébranlés, qu'est-ce qui restera? Il dit ce qui restera, c'est le royaume de Dieu, le royaume éternel, le royaume de Christ. C'est le seul qui est inébranlable. En Californie, là où j'ai grandi, pays de tremblements de terre, vous savez. Mais les étudiants ingénieurs, ils font parfois des concours de construction pour résister au séisme. Donc avec des cure-dents ou des bâtonnets, ils construisent des édifices, puis qui sont soumis à des intensités grandissantes de secousses, pour savoir quelle structure résiste le mieux. Et celui qui est toujours debout à la fin, c'est celui qui a gagné. Mais c'est un peu ce qui va se passer, ce qui se passe dans les épreuves de la vie, on est tous un peu secoués. Et qu'est-ce qui reste? Et ces épreuves peuvent aller même grandissant. Et un jour, il y a même la mort qui va nous secouer encore plus. Et encore, même après ça, il y a le jugement dernier qui va nous secouer encore plus. Et la question, qu'est-ce qui va rester? Et il nous rappelle ici que finalement, toutes les manières dont nous avons construit notre identité, notre sécurité, toutes ces manières vont être soumises à ce test. Et c'est déjà parfois le cas dans les épreuves, et un jour la mort, certainement. Et moi, je vous pose la question, quel royaume, quelle communauté, quelle cité, quelles relations vont tenir, même au-delà de la mort, même après le jugement? S'il y avait une communauté qui tenait, et ben c'est celle que je voudrais rejoindre. Et il suffit de constater dans l'histoire, les royaumes ici-bas, ça existe un temps, et puis ça s'écroule. Et les cités qui ont l'air si puissantes et fortes, ils ont un temps, mais des fois, ça... Même nos familles, nos relations, notre travail, c'est des choses provisoires. Mais il y a cette communauté des chrétiens qui va rejoindre la cité céleste. Donc, elle va vers une meilleure destinée. Et ce qu'on se rappelle souvent en tant qu'église ici à l'EBTM, c'est que puisque nous allons passer l'éternité ensemble, déjà, on est content d'être ensemble et on va soigner nos relations, on va vivre pleinement cette communauté, parce que autant s'habituer maintenant, si on va passer l'éternité ensemble, à s'aimer, à s'entendre. Bien sûr, en attendant, on va être parfaitement transformé et perfectionné pour être enfin dans la présence de Dieu, mais ça, c'est sa dernière promesse, que le Dieu qui a ramené le grand berger d'entre les morts, qui vous rend capable de toute bonne œuvre, effectivement, la puissance qui a ressuscité Jésus, vous rend capable de vivre cette communauté et de pratiquer votre foi. Et vraiment, c'est un grand avantage d'être chrétien. Vous faites partie de la famille de Jésus-Christ et vous êtes en route pour la cité céleste. Que Dieu nous aide à vivre pleinement ces choses. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta conception de la communauté chrétienne de l'Église. C'est toi qui as défini nos relations. Elle, grâce à Jésus-Christ, elle se distingue de toute autre communauté ici-bas. Nous te remercions pour les familles que tu nous as données, le pays que tu nous as donné, le travail que tu nous as donné, les amitiés que tu nous as données, tout ça font partie. Mais nous reconnaissons qu'au-delà de tout ça, et en Christ, nous vivons quelque chose de bien plus grand, de bien plus glorieux, qui est l'Église à travers tous les temps. Et un jour, nous serons réunis dans ta gloire. Aide-nous donc à persévérer dans notre foi, rester attachés à Jésus-Christ, sachant qu'il nous offre à vivre vraiment une meilleure communauté. Que notre Église à l'EBTM soit un reflet de ces vérités. Aide-nous à persévérer dans ces différents amours. Aide-nous à t'offrir un culte qui te soit agréable. Et aide-nous à valoriser les conducteurs et à former une future génération de ceux-ci pour continuer à porter ton œuvre. Nous te remercions pour toutes ces grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen.